La technique, Théa Corlaire m'a aidé à préparer cette émission ainsi que Patricia Miura et la documentation de Radio France. Nous sommes samedi, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancos. Joyeuse Pâques, bon week-end, à samedi prochain.
Vous écoutez France Culture.
Il y a des années qui passent comme ça, sous les radars, et ce n'est que des décennies plus tard que l'on se rend compte de leur importance.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Le professeur Antoine Compagnon soutient que l'année 1966 est l'une d'entre elles. Alors nous sommes allés explorer les archives de cette année a priori banale pour déceler ce qu'elle annonce d'une ère tout à fait nouvelle et nous demander si nous y sommes encore.
Salle des archives, ce dimanche à 23h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture s'invite chez Sooner, la nouvelle plateforme indépendante dédiée au cinéma et aux séries. Découvrez des films soigneusement sélectionnés dans le monde entier, des œuvres primées dans les plus grands festivals, des moments de cinéma que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Tous les coups de cœur de France Culture à retrouver directement sur Sooner.fr.
Vous écoutez France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancos.
Chaque jour en France, 200 femmes meurent de maladies cardiovasculaires. Si l'on veut comparer, ce sont 35 femmes qui meurent d'un cancer du sein tous les jours et 3 dans un accident de la route. C'est donc un nombre très élevé. Et pourtant, nous pensons souvent que les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, touchent avant tout les hommes et nous estimons qu'ils sont moins graves qu'avant du fait des progrès réalisés dans le traitement de ces affections. Alors c'est en partie vrai, la mortalité cardiovasculaire globale a diminué depuis 20 ans, mais cette décroissance n'est pas homogène selon l'âge et le sexe. Si elle baisse chez les hommes, quel que soit leur âge, elle augmente en revanche nettement chez la femme de moins de 55 ans. De nombreux facteurs l'expliquent, elles ont des facteurs de risque particuliers, des symptômes particuliers et même des maladies particulières pas forcément bien connues. Pire, elles s'occupent moins de leur santé que de celle de leurs proches et s'alertent plus tardivement, entre autres inégalités. Une bonne nouvelle dans tout cela, les femmes pourraient éviter 80% de ces maladies grâce à une bonne hygiène de vie et des mesures de prévention adaptées. Quelles sont ces spécificités? Comment expliquer de telles inégalités? Comment y remédier? Et quels conseils donner aux femmes selon leur âge? On en parle avec notre invitée. Professeur Claire Mounier-Veillé, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes cardiologue, médecin vasculaire, vous dirigez le service de médecine vasculaire et hypertension artérielle à l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille. Vous avez cofondé la fondation Agir pour le cœur des femmes et êtes l'auteur du livre de mon combat pour le cœur des femmes, paru chez Marabout. Alors, on va parler d'abord de vous et de votre parcours, pour bien comprendre votre engagement au service de la santé des femmes. Très jeune, vous vouliez être médecin, bon, vos deux parents le sont, mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que vous pensiez déjà prévention. Dès l'âge de 7 ans, vous conseillez aux policiers de ne pas fumer pour leur santé et aux clients de la boulangerie de ne pas manger des croissants au beurre pour leur cœur. C'est une légende ou pas?
Ah non, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, on entendait tellement parler à la maison de « faut pas manger salé, pas de beurre, de la margarine et pas de cigarettes », parce que maman était fumeuse. Et papa a dû mettre 15 ans pour lui faire arrêter son paquet de gitane. Et du coup, c'est vrai que j'étais assez impertinente. Et j'ouvrais la fenêtre et puis je voyais les policiers, parce qu'à l'époque, on fumait n'importe comment. Oui, je l'ai fait. Et même encore maintenant, ça m'arrive de... Voilà, quand je fais mes courses, que je vois une femme qui a des facteurs de risque, de lui dire, est-ce que vous faites des bilans prévention? Je continue.
Et je précise que papa, dont j'ai été l'élève, le professeur André Vacheron, que je salue. Alors au départ, c'est la gynécologie obstétrique qui vous attirait?
Oui, parce qu'en préparant l'internat, c'est une matière, ça me fascinait de voir comment on pouvait fabriquer des bébés. Enfin, c'était toute la pathologie de la femme m'intéressait, mais je suis amblyope. Donc c'est à l'amblyopie, c'est une malformation de naissance où il y a une petite zone de l'œil qui s'active pas. Donc il faut le repérer, d'ailleurs c'est très important pour nos enfants, sur des enfants qui louchent un peu. Et en fait, trouble du relief et donc pas de chirurgie. parce qu'aujourd'hui on a la gynéco-médicale, donc ça serait possible, mais à l'époque c'était pas possible, mais je suis quand même retombée sur mes pattes avec la cardio-gynécologie.
Voilà, et vous allez vous intéresser à la santé cardio-gynécologique des femmes, on va expliquer ce que c'est que cette cardio-gynécologie, parce qu'on n'en parlait pas moi quand j'ai fait mes études. Vous allez donc axer votre travail sur les femmes, parce que vous réalisez comme les spécificités féminines sont mal prises en charge, on va parler de cette mauvaise prise en charge et de ses conséquences, mais déjà les spécificités féminines, est-ce que notre cœur et nos vaisseaux sont différents de ceux des hommes?
Tout à fait. Le cœur d'une femme n'est pas celui d'un homme et les artères sont également différentes. D'abord, c'est un cœur qui est plus petit. Si par exemple, je prends un exemple, quand on greffe un cœur de femme à un homme, parce qu'il y a une compatibilité génétique, l'homme va avoir plus de temps à récupérer. Quand on avait le carmate, avant que ça soit interrompu, on ne pouvait pas le greffer sur un thorax de femme parce que le thorax était trop petit. Donc oui, ce cœur est différent. Il a également des récepteurs aux œstrogènes que n'ont pas les hommes. Et puis, les artères sont également plus fines, plus sensibles à l'effet du stress, très innervées. Et puis, il y a aussi la physiologie, c'est quoi? C'est par exemple, elles coagulent différemment, par exemple, juste avant les règles, pendant la grossesse, à la ménopause, elles font plus facilement des caillots sanguins et elles métabolisent pas de la même manière les médicaments.
D'accord.
Et donc, que ce soit au niveau du foie ou du rein. Et du coup, comme les médicaments, les doses ont été faites pour...
Et testé essentiellement chez les hommes.
Exactement. Donc elles font plus facilement des effets indésirables aux médicaments, pour ces raisons-là.
D'accord. On va voir de quelle maladie on parle, parce qu'on pense bien sûr à l'infarctus du myocarde. Il y a les troubles du rythme du cœur, il y a l'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur ne se contracte plus correctement, il y a les accidents vasculaires cérébraux. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur eux, parce que c'est pas l'apanage des hommes, hein, les accidents vasculaires cérébraux. C'est très fréquent chez la femme.
C'est la première cause de mortalité d'origine cardio-neurovasculaire. Quand on dit 200 femmes par jour décèdent de maladies cardiovasculaires, c'est d'abord le cerveau, vous avez raison. Ensuite, c'est l'insuffisance cardiaque, puis la maladie coronaire.
Et donc, je voulais qu'on précise, parce que c'est vrai qu'on se dit maintenant, les infarctus, maintenant on met des stents, on traite en urgence, et puis ensuite tout est réglé. D'abord, c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que l'accident vasculaire cérébral, on n'a pas ces systèmes aussi simples,
non,
finalement. Mais... Donc c'est grave, un accident vasculaire cérébral.
C'est très grave. Alors maintenant, il y a eu un plan AVC, il n'y a pas encore eu de plan cœur. On sait gérer un accident vasculaire cérébral il faut 2 heures en fait, comme pour l'infarctus du myocarde. Et c'est vrai que chez les femmes, il y a plusieurs facteurs. Il y a la contraception avec œstrogène, le tabac, la migraine. Ça multiplie par 64 le risque d'AVC chez la jeune femme. Migraine avec aura, donc par exemple la migraine ophtalmique qui est très connue, mais ça peut être une migraine sans aura quand on a par exemple du cholestérol ou du surpoids.
On va voir ça, il faut surveiller effectivement ces personnes.
Et après, pendant la grossesse, il y a la thrombophlébite cérébrale qui est aussi spécifique à la femme enceinte. Donc oui, il y a des causes. Et puis il y a aussi, quand l'artère est dilatée, ce qu'on appelle l'anévrisme cérébral, où il y a une prépondérance féminine de ces malformations vasculaires qui peuvent se rompre quand elles sont trop grosses et pas dépistées. Il ne faut pas non plus faire peur à nos auditrices, mais ça existe.
Mais comme il y a des moyens de surveillance, c'est bien d'en parler. Et puis, il y a des pathologies qui concernent plus souvent la femme que l'homme, comme le syndrome de Takotsubo. C'est le syndrome du cœur brisé.
Tout à fait.
On est si fragile.
Alors, c'est des femmes particulières aussi. Je pourrais faire un Takotsubo.
Oui.
C'est des femmes qui sont très anxieuses, qui sont dans la performance.
Je vais peut-être aller
à la ménopause. Donc oui, je pourrais être concernée. Donc généralement, c'est des femmes qui ont un stress chronique. Et puis subitement, il y a une situation beaucoup plus importante. Par exemple, une rupture amoureuse, mais aussi une intervention chirurgicale, l'annonce d'un cancer, un déménagement, un accident de la route. Leur corps libère brutalement plein d'hormones de stress. Et ces hormones vont aller se fixer sur le cœur. Ça va paralyser le cœur, qui va prendre la forme d'un piège à poulpe, le Takotsubo en japonais. Et du coup, c'est une forme d'insuffisance cardiaque aiguë qui fait très très mal, parce que le cœur est très innervé, et ça mime l'infarctus. Donc ces femmes-là, généralement, là, elles appellent le SAMU. Là, elles appellent, et c'est finalement en soins intensifs cardiologiques sur table de coronarographie qu'on va s'apercevoir que ce n'est pas une artère qui est bouchée, mais que c'est le cœur qui est paralysé. Mais c'est complètement réversible.
Et ça se soigne bien quand on le fait rapidement, on va voir que c'est souvent un problème, cette rapidité. Bon, il y a aussi évidemment des maladies spécifiquement féminines parce que liées à la grossesse ou à la contraception. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'infarctus. On sait que son pronostic est moins bon chez la femme que chez l'homme. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, les signes sont moins spécifiques. Avant que vous ne répondiez, je voudrais qu'on écoute Isabelle. Elle témoignait dans le téléphone sonne sur France Inter.
Moi, j'avais pas de facteur de risque. Je pensais que j'étais en bonne santé. Et ça m'est arrivé. Donc, un soir, j'ai eu des symptômes apparemment qui sont pas très classiques. voilà, j'ai eu une vague douleur, enfin, que j'ai quand même ressentie, mais sans tout ce qu'on décrit habituellement.
Sans trop comprendre au départ ce qui vous arrivait, c'est ça?
Non, oui, je me suis vraiment posé la question. J'ai cru, pour vous dire, que comme j'avais fait du yoga 2 jours plus tôt, j'ai cru que j'avais un peu mal au dos parce que je m'étais déplacé quelque chose. Voilà, et donc j'ai attendu le lendemain pour aller consulter tranquillement parce que je pensais vraiment pas que ça serait un problème cardiaque. Et donc je suis ressortie du cabinet du médecin avec le SAMU, les pompiers.
Le thorax en étau avec la douleur qui irradie vers le bras, la mâchoire, c'est pas l'apanage des femmes, ça?
Ça peut arriver quand même, hein, une femme sur deux. Et ça traduit l'artère qui...
Seulement une femme sur deux?
Oui.
D'accord.
Et ça traduit en fait l'artère qui se bouche brutalement. Mmh. Et c'est une grosse coronaire qui se bouge brutalement. Mais vous avez raison, Marina, les femmes, elles ont également les symptômes dont parlait notre auditrice, qui vont brouiller un peu le message, c'est-à-dire que c'est pas la douleur en étau, ça va être effectivement une autre sensation d'oppression dans la poitrine, qui va aller entre les omoplates, une brûlure dans la mâchoire, dans la nuque aussi, et c'est associé souvent à d'autres symptômes, mmh. Et les femmes vont focaliser sur les autres symptômes, parce qu'elles sont habituées finalement à subir la douleur, sur l'essoufflement à l'effort, la fatigabilité à l'effort, les palpitations, mais il y a un symptôme qui pour moi est fondamental dans ce brouillard de signes fonctionnels, c'est l'anxiété. C'est pas comme d'habitude. Quand on les reprend l'interrogatoire, alors c'est facile de reprendre l'interrogatoire après l'accident, mais en fait, on essaye de comprendre, de se prémunir et d'informer sur ces symptômes-là. La femme vous dit, j'avais une gêne dans la poitrine, mais je sais pas, ça a duré, ça revenait, j'étais réveillée par cette douleur, et finalement, elles sont angoissées, elles ont une sensation de danger imminent. Et ça, je pense que c'est un symptôme, il faut en parler de cette sensation.
Bien sûr.
Donc, en fait, quand on a ces symptômes-là, il faut pas hésiter à appeler le 15, il faut oser appeler, parce qu'on n'ose pas déranger aussi.
Il faut oser appeler, le seul problème, c'est que les femmes, on le sait, s'inquiètent moins vite pour elles que pour leur conjoint ou leur enfant, elles s'occupent moins d'elles, et en cas de problème, elles appellent moins vite le 15.
Tout à fait.
Pour elles.
Pour elles, en fait, elles vont s'automédiquer. On avait fait une enquête avec OpinionWay et Agir pour le cœur des femmes en mai dernier. Et en fait, sur les 2000 femmes interrogées, elles sont une sur trois à faire de l'automédication.
Devant des symptômes de ce type,
oui,
par exemple?
Tout à fait. Ah oui. À prendre, par exemple, des anti-inflammatoires dont on sait qu'ils sont contre-indiqués si on est hypertendu, qu'on est en train de faire un infarctus. Elles vont, une sur trois, reporter le rendez-vous médical qui était programmé. Donc, en fait, oui, elles ont du mal à appeler. Et maintenant, c'est souvent la famille qui appelle pour elles. C'est-à-dire le conjoint, bon, j'avais fait comme ça une conférence à Béthune il y a un an et demi. Et à la fin de la conférence, il y a une dame qui m'a dit, vous savez, c'est mon chat qui m'a sauvée. Parce que le chat était couché sur elle, miaulait de façon discontinue, elle était toute seule, du coup elle a vu son médecin traitant qui a pris ça à la légère, et la deuxième nuit elle avait toujours ses symptômes un peu bâtards, et du coup elle est allée voir son ancien cardiologue, et elle est restée dans le cabinet en disant, c'est pas normal, mon chat miaule. Et effectivement, on lui a mis 3 stents coronaires, et le chat l'a sauvée.
Alors, problème encore, parce qu'elles ont encore d'autres problèmes toujours pour ces infarctus, comme les symptômes ne sont pas forcément typiques, mais de faux diagnostics peuvent être posés, et même de faux diagnostics peuvent être posés quand les symptômes sont typiques. Écoutez Marion, cette fois-ci, sur France Inter.
J'ai fait un infarctus au mois de mai, donc j'ai été aux urgences, et là, on a tout de suite considéré que je faisais une crise d'angoisse, parce que j'avais précisé que je prenais un peu régulièrement des anxiolytiques. Et en fait, ça a duré assez longtemps, des symptômes, les symptômes classiques, en fait, une barre au-dessus de la poitrine. Donc j'étais accompagnée par ma femme, qui a insisté plusieurs fois auprès du personnel pour dire que vraiment ça n'allait pas. Je suis tombée dans les pommes, j'ai vomi, enfin bon, j'avais beaucoup de symptômes. Et il a fallu 3 heures pour qu'ils acceptent de voir qu'il y avait un infarctus, puisqu'ils ont même été jusqu'à dire que c'était une crise d'hystérie. Je pense que si j'avais été un homme, le personnel n'aurait pas agi de cette manière. C'est très très désobligeant, je trouve, pour les femmes. Et il y a en effet une formation à donner au personnel soignant pour qu'il considère les douleurs des femmes, non pas comme des lubies ou des symptômes psychologiques, mais vraiment comme pouvant être des graves symptômes.
Voilà, elle dit clairement, si j'avais été un homme, on y aurait pensé. Il y a toujours des biais de genre.
Oui, il y a toujours des biais de genre, et même quand on appelle le 15, en fonction que le régulateur est un homme ou une femme, ça peut également, parfois, retarder l'envoi du camion. Donc en fait, je dis à mes patientes, quand je les vois en prévention ou quand elles ont déjà fait un infarctus, vous grossissez le tableau. En clair, hérédité, tabac,
d'accord,
stress, voilà. Il faut grossir un peu le
bien
tableau.
Sûr.
Mais c'est vrai qu'il y a des errances diagnostiques. En fait, il faut se dire qu'une femme qui a des facteurs de risque, parce qu'il y a toujours un facteur de risque. La première dame qui a témoigné, elle nous a pas dit si elle était stressée ou pas, oui. Mais on retrouve toujours le fil rouge conducteur qui est le stress.
La charge mentale.
La charge mentale, on dit que c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus, mais je pense que chez la femme, c'est le premier facteur de risque, cette charge mentale. Et donc, voilà, il faut gratter, quoi.
Et puis, il y a encore deux causes à la gravité de l'infarctus chez la femme, c'est qu'on leur donne pas forcément les mêmes traitements et qu'elles font moins souvent de la réadaptation après l'accident cardiaque. Et on sait que c'est essentiel pour la récupération.
Alors, tout à fait. Alors déjà, effectivement, c'est les registres de post-infarctus qui permettent de nous dire ça. Elles sortent pas avec les bonnes doses de statine, parce que quand on a fait un infarctus, on donne un bêta-bloquant, on donne un anti-agrégant plaquettaire, même deux, pendant un an, et on donne la fameuse statine. Donc les gens ont très peur.
C'est de ralentir le cœur, c'est de fluidifier le sang.
Exactement. Et pour parce que les auditeurs doivent entendre ça, c'est que la statine, au-delà du mauvais cholestérol qui s'infiltre dans la paroi, a aussi une fonction anti-inflammatoire et un effet stabilisateur de plaques. Et donc finalement, ces quatre médicaments, ça permet de réduire, c'est comme un bon de réduction quand on a des soldes, ça permet d'avoir un risque résiduel très très bas.
On prend.
Et la rééducation, mais effectivement, les femmes, c'est pas que la faute des docteurs là, déjà.
C'est parce qu'elles veulent rentrer chez elles et s'occuper des enfants.
Voilà, elles disent, on a le mari à la maison, on a les enfants à gérer, j'ai mes petits-enfants, parce que quand elles sont plus âgées. Et après, le médecin n'insiste peut-être pas assez sur le bénéfice de la rééducation, ça permet de réduire de 30% le risque de la récidive. Et surtout, ce temps de rééducation, je le dis aussi à l'antenne, c'est un temps où elles vont voir qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il y a d'autres femmes comme elles, parfois et aussi d'autres hommes. On va aussi parler de la sexualité, parce que ça, la sexualité, on n'en parle pas assez, mais après l'infarctus... le conjoint, elle est materne. C'est valable quand c'est les hommes qui font l'infarctus. Et finalement, elles se retrouvent stigmatisées. Elles vont vivre un arrêt maladie. Donc, elles vont se retrouver en isolement social. Et finalement, ça peut conduire à un état dépressif qui va favoriser aussi la récidive de l'infarctus. Donc, la rééducation, c'est pas que pour le cœur, c'est aussi pour le bien-être mental.
Alors, on va parler bien sûr des facteurs de risque à repérer et à prendre en charge. Mais qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message aux femmes pour réduire cette perte de chance déjà ? C'est de s'écouter, déjà ?
Je me rappelle, on m'avait dit, oui, s'écouter, c'est facile, mais quand vous êtes précaire, c'est pas facile de s'écouter.
Bien sûr.
Mais les femmes précaires, pour les voir dans le bus du cœur des femmes, quand on prend le temps de les écouter, de les rassurer, de les chouchouter, c'est les femmes qui ont besoin, en fait, d'être chouchoutées, elles sont capables de se prendre en charge. Il faut arrêter de dire, la femme précaire, elle sait pas se prendre en charge. Ça, c'est faux. Donc oui, c'est écouter. C'est également, finalement, être rigoureuse avec ces phases clés de dépistage. On en parlera peut-être plus tard dans l'émission. C'est de se dire, finalement, est-ce que j'ai fait mon bilan biologique recensé? On a mis en ligne un auto-questionnaire qui les aide finalement à recenser leur historique médical, puis préparer sa consultation chez son médecin.
Et y aller.
Ne pas reporter sa consultation. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas aller voir son médecin. Vous voyez, moi, mon hypertension, elle a été découverte par ma gynéco. À 53 ans, je suis hypertensiologue. Je prenais des anti-inflammatoires parce que j'avais mal à la tête. Et je me disais, oui, c'est le stress. Mais
bien
non. Et en fait, j'avais vraiment de l'hypertension. Même quand on est médecin, finalement, on ne se soigne pas bien. On est comme les autres.
Voilà, donc on s'occupe de soi quand on est une femme, quand on est un homme aussi, mais ça, c'est souvent...
Mais les femmes, généralement, s'occupent bien de leur mari.
Évidemment, l'idéal, c'est prévention et dépistage des facteurs de risque. Alors, on va parler des facteurs de risque. Certains sont communs chez les hommes et chez les femmes. L'âge, les antécédents familiaux, l'obésité, la sédentarité, un excès de cholestérol, le diabète, le tabac, l'hypertension... Parmi ceux-là, et c'est quand même étonnant, certains sont plus graves quand ils surviennent chez la femme que chez l'homme.
Tout à fait. Alors, dans tous ceux que vous avez évoqués, il y a le tabac. Il n'y a pas de petite cigarette chez la femme. Fumer 3 cigarettes par jour, ça multiplie par 2 le risque d'infarctus. Le diabète est également plus toxique sur une coronaire ou une artère de femme. Il y a également les carotides et les artères des jambes. Vous avez la sédentarité qui est également le stress, on en a déjà parlé. Oui. Et l'hypertension, en sachant qu'elle peut être démasquée aux 3 phases clés, contraception, grossesse et l'entrée dans la ménopause.
Et qu'on précise que près de 40% des femmes hypertendues ne savent pas qu'elles le sont.
Tout à fait.
Donc pas prises en charge.
Elles ne sont pas prises en charge et Santé publique France, qui fait de merveilleux registres épidémiologiques, montre qu'il y a une alerte rouge sur l'hypertension en France, notamment chez les femmes, qui sont moins bien dépistées qu'avant, moins bien traitées et moins bien contrôlées. Et finalement, l'hypertension, c'est un geste simple qu'on peut faire à la maison. Et c'est vrai qu'avec la Société française d'hypertension et Agir pour le cœur des femmes, on milite pour que chaque Française et français, et un tensiomètre comme
bien
un
sûr.
Thermomètre à la maison.
Bien sûr.
Et finalement, c'est prendre sa tension sur 3 jours, tous les 3 mois, c'est pas très compliqué, mm-hmm. ou avant chaque consultation médicale, et ça permettrait de dépister bah, finalement un hypertendu sur 2 qui s'ignore.
Ce serait énorme. Et puis, il y a des facteurs de risque spécifiques aux mm-hmm. femmes, comme par exemple la contraception.
Alors la contraception, c'est pas toutes les contraceptions, c'est la contraception avec des œstrogènes, ce qu'on appelle la combinée. Alors il faut que nos auditrices entendent que c'est à la fois le comprimé et la pilule, mm-hmm. mais c'est aussi l'anneau vaginal, on pense que quand c'est un anneau, c'est pas
oui,
dangereux,
absolument.
Et le patch. Et en fait, ces œstrogènes, pour être actifs, doivent passer par le foie. Et en passant par le foie, bah, ça active la coagulation, et donc c'est surtout dans la première année de traitement, et ça active une hormone qui donne de l'hypertension. Donc finalement, c'est pas tout le monde non plus, hein. C'est à peu près 12% des contraceptions avec œstrogènes. Vous allez me dire, c'est une femme sur 10. Mais il y a des feux rouges. Et je pense que c'est important de les rappeler à l'antenne. Quand on vient d'accoucher, jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, pas d'œstrogène. Parce que, on va leur donner à la maternité une microprogestative. Elles vont saignoter. Elles vont reprendre l'œstrogène dans
sûr.
La boîte. Et là, c'est l'arrêt cardiaque ou l'embolie pulmonaire.
D'accord.
On n'a pas le droit de mourir pour une contraception. Et après, c'est après 40 ans, quand on a des facteurs de risque, on arrête. Le tabac, après 40 ans, il vaut mieux changer la contraception. Et puis, quand on est migraineuse, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais la migraine, c'est une contre-indication formelle. Vous voyez, dans le bus du cœur des femmes et la journée du cœur des femmes qu'on mène sur les territoires, dans notre registre, on a arrêté 40% des contraceptions à risque.
Mm-hmm.
On ne peut pas
énorme.
Mourir parce qu'on a
bien
une
sûr.
Mauvaise contraception.
Bien sûr.
Pas possible, ça.
Donc clairement, ce qui est différent entre les hommes et les femmes, on le savait, mais c'est le statut hormonal. Or, c'est vrai que jusqu'à la ménopause, les femmes ont moins de risques de souffrir de ces maladies grâce à leurs œstrogènes. Après, le risque s'élève. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme surveillance autour... Parce qu'on va souvent voir son gynéco pour les symptômes ou son médecin traitant qui prend ça en charge. Mais en fait, il faut que gynécologue et cardiologue travaillent ensemble.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, on travaille vraiment... Avec notre fondation Agir pour le cœur des femmes, que j'ai cofondée avec Thierry Drillon, on fait vraiment de la cardiogynécologie. Mmh. Et en fait, il y a un truc qui est génial, c'est que au travers de ces... Maintenant, on a 80 actions de dépistage. Donc, entre le bus du cœur depuis 2021 et maintenant, on fait 70 journées du cœur des femmes dans les établissements de soins. Mais ça peut être aussi les CPTS, hein, mmh. ou dans les petits villages de 700 habitants. Eh bien, les professionnels de santé, ils vont préparer l'étape en amont. On fait des webinaires de formation pour répondre à l'auditrice. Et derrière, ils ont appris à travailler ensemble. Et ils vont faire de la cardiogynécologie. Voilà. Ça, c'est génial. Ils vont faire des parcours de soins.
On ne le sait pas, mais à la ménopause, il faut un bilan cardiologique complet.
Tout à fait. Donc, on a la consultation longue déjà de la contraception. Pour la grossesse, je pense qu'il faut militer pour qu'il y ait des consultations préconceptionnelles postpartum. Et là, on a réussi avec l'assurance maladie, puis Stéphanie Ritz, dans son rapport sur la ménopause en mars dernier, à finalement mettre dans le marbre cette consultation à 360 degrés cardiovasculaire et aussi gynéco et osseuse. Mmh. Et là, l'Assemblée nationale l'a voté à 100% des voix. Et maintenant, reste à fixer le prix.
Absolument.
Mais c'est rien une consultation de prévention par rapport au coût d'un AVC ou d'un infarctus.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, toute la vie, c'est pas que le cardiologue qui va s'occuper du cœur des femmes, c'est les généralistes, c'est les gynécos, c'est les sages-femmes, c'est les médecins du travail, c'est les infirmiers. Il faut que ça rentre, ça, effectivement. Dans les mœurs, parce que les femmes ont un risque, en fait, toute leur vie, un risque cardiologique.
Les femmes sont à risque toute leur vie, et je pense que vous avez tout à fait raison, Marina. C'est une chaîne de santé publique, en fait. Et vous voyez, là, on parlait de journée du cœur des femmes, mais maintenant, on va dans le milieu de l'entreprise. Parce que finalement, il y a une prise de conscience par les dirigeants d'entreprise que la santé de leurs salariés est très, très importante à jouer. Et finalement, qu'on soit un homme ou une femme, faire de la prévention en action sur une journée ou sur 3 journées, c'est super important.
Ça, c'est très important de rentrer dans les entreprises maintenant pour ce dépistage.
Et en fait,
les femmes adhèrent à ça ?
On est, en fait, comme Agir est un fonds de dotation, on fonctionne, on est financé par du mécénat d'entreprise que je remercie d'ici d'ailleurs à l'antenne, entre autres. Mais ces mécènes ont compris que finalement, on a un cercle vertueux, on commence par une conférence, et puis ensuite ils remettent des brochures d'information, de l'affichage, et on termine par ces journées de repérage où les salariés vont préparer leur consultation avec un auto-questionnaire, ils ramènent leur prise de sang, ils ramènent leur dossier médical, et sur site on va faire la mesure de tension, on va faire de la biologie embarquée, on va faire un électrocardiogramme, et ils auront une synthèse derrière, qui reste confidentielle bien sûr, parce qu'on est dans le milieu de l'entreprise, mais quand c'est possible, par exemple on travaille avec La Poste, On travaille avec Sodexo, avec le Crédit Mutuel, et quand ils ont des, là, on vient de faire une formation aux médecins et infirmiers du travail du groupe La Poste, et ils sont super contents parce que derrière, il y a un héritage. Et cette notion d'héritage est importante. Il y a la journée de dépistage, mais derrière, ça continue. On n'est pas tout le temps là. Et donc derrière, les médecins du travail, ils ne sont pas là que pour faire des arrêts de travail ou pour voir les conditions de travail. Ils sont là aussi pour faire de la médecine. Et ils sont super contents parce qu'on remet leur métier de soignant au cœur du sujet. Et je pense que c'est des choses qu'il va falloir poursuivre, développer et promouvoir. C'est ce que fait d'ailleurs l'ancien ministre de la Santé, Yannick Neuder, dans sa loi sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Et ce projet de loi, il faut le souligner à l'antenne, est un très beau projet. On n'en est qu'au début. Mais finalement, on pourra faire bouger les lignes si l'ensemble des sociétés savantes, des collèges professionnels, sont autour du sujet pour dire, bah oui, c'est la deuxième cause de mortalité. On a beaucoup parlé du cancer, c'est pas deux maladies qui sont
dynamiques,
mais voilà, il faut travailler maintenant le sujet des maladies cardiovasculaires.
On a bien compris que repérer les facteurs de risque, c'est pouvoir en corriger. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux femmes en général pour protéger leur cœur? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent?
Alors déjà, c'est préparer leur consultation. Alors, il y a l'hygiène de vie, on en parle toujours.
Bien sûr.
Alors, l'hygiène de vie, il faut qu'elle soit ludique. Ludique, c'est pas de se dire « il faut ». On se fixe des objectifs. C'est reprendre une activité physique. Et si vraiment on a été très très sédentaire, qu'on a un léger surpoids, avant de se remettre sur un tapis de course, une salle de sport, c'est bien d'en parler à son médecin traitant pour faire une consultation cardio. Je pense que c'est important quand même. Donc c'est manger moins salé. Le sel, c'est un poison. Et notamment, quand on avance et qu'on est ménopausé, le rein ne sait pas bien éliminer le sel. Et du coup, le sel, on garde de l'eau, on prend du poids. C'est tout ce qui est nourriture transformée, mais ça, on en parle beaucoup. L'alcool...
Oui, c'est bien de le rappeler.
Mais c'est important parce que finalement, ces mauvais sucres vont se fixer sur les fibres artérielles et vont accélérer le vieillissement de la peau, mais également de toutes les artères. Donc voilà, c'est également tout ce qui est...
Vous étiez à l'alcool ?
Il y a l'alcool. Et aujourd'hui, les femmes boivent comme les hommes. C'est vous regardez au restaurant ou dans la vie courante, et c'est une calorie blanche. Et c'est également très tensiogène.
Calorie blanche, c'est une calorie inutile.
Inutile, ouais. Exactement. Et après, on ne dort pas assez. Il faut dormir au moins 6 heures. Donc quand on dort pas bien, notamment à la ménopause, qu'on a un sommeil très morcelé, la sieste, moi je fais ma sieste tous les jours, 20-30 minutes, n'importe où, masque avion, boule caisse. Et finalement, la sieste, ça permet de remettre au repos le cortisol qui fait grossir, le système nerveux sympathique et c'est bon. Donc ça, c'est l'hygiène de vie. Puis à côté de ça, c'est effectivement le check-up, finalement, c'est de notre santé dont il s'agit. Il faut être bienveillant avec soi-même et on a tendance à se maltraiter. Et c'est donc, moi j'appelle ça la main du cœur, écouter ses symptômes, mesurer sa tension à la maison, sa prise de sang de moins de 1 an, et puis vérifier que son hygiène de vie est satisfaisante et consulter. C'est ça la main du cœur. Et cœur et artère, bien sûr. Et donc finalement, à intervalles réguliers, c'est faire ça, soit avant d'aller voir son médecin traitant, sa gynéco, sa sage-femme, mais... Il y a quand même un chiffre qui est important, c'est 40% des femmes ne sont pas à jour dans leur suivi gynéco.
Oui, c'est bon.
Même quand c'est la mammo, elles reçoivent le petit bon, puis elles n'y vont pas parce qu'elles ont la trouille du diagnostic.
En France, non. On est très en dessous
d'autres
pays européens.
Et les jeunes femmes de moins de 25 ans, elles ne sont pas à jour dans leur frottis cervico-utérin. Donc, voilà.
Vous parliez des jeunes femmes, juste une question. Est-ce qu'on sait si la cigarette électronique réduit considérablement le risque vasculaire ou pas? Ça
c'est
dépend de la nicotine qu'il y a dedans, j'imagine.
C'est mieux que la cigarette classique. Je pense qu'on manque. C'est un geste qui doit aussi rester transitoire. C'est-à-dire que ça permet d'arrêter En fait, c'est le geste qu'aiment les femmes. Mais je vois maintenant, il y a pas mal de jeunes et de jeunes filles qui ont la cigarette électronique.
Beaucoup, beaucoup.
C'est mieux que la cigarette classique.
Mais il faut mettre le moins de nicotine possible dedans.
Voilà, exactement. Le moins de nicotine. Et puis, quand même, c'est des gaz. Donc, il y a un moment donné, c'est songer à arrêter tout complètement, quoi.
Un mot sur la recherche. On en est où exactement là? Sur quoi on travaille actuellement?
Alors, la recherche épidémiologique, et il n'y a pas de différence homme-femme, il y a pas mal de registres. En exemple de recherche épidémiologique sur l'infarctus, on a par exemple le registre WAMIF, qu'on a supporté avec la Société française de cardiologie, avec Stéphane Mondeau qui était à l'origine, on est tous impliqués dedans, qui permettait d'étudier les caractéristiques de l'infarctus de la femme. On a des observatoires avec Santé publique France qui sont très intéressants. On a un registre qui s'appelle l'Observatoire national de la santé des femmes, issu du Bus du cœur et de la Journée du cœur des femmes, qui donne des indicateurs de santé cardio-gynéco sur l'ensemble des territoires en France, qui a permis de valider notamment la consultation de la ménopause. Et après, en thérapeutique, on est limité par le fait que les femmes doivent être sous contraception efficace. ou sont ménopausées, mais ça avance quand même, notamment dans tout ce qui est mis en place de stent. Alors, c'est des registres européens thérapeutiques. On a le programme GORED aux États-Unis, ils sont bien plus en avance que nous, il faut quand même le souligner. Oui. Ils ont beaucoup de financement pour cette recherche pharmacologique. C'est quand même en train de bouger, notamment sur la connaissance de la thrombose chez la femme, c'est en train de bouger.
Un dernier mot à la ménopause, le traitement hormonal de la ménopause qui maintenant n'est plus remis en question comme il avait été remis en question, il permet de réduire ce risque. C'est quoi son intérêt aujourd'hui?
Alors le traitement hormonal de la ménopause, c'est le schéma français qui a été validé sur le plan international, donc on peut être fier.
Exactement, hein, on s'est battu pour ça mais on est content.
Tout à fait, donc le schéma français, c'est-à-dire que c'est les oestrogènes naturels, par voie cutanée, et de la progestérone naturelle, ça a été réhabilité par la Haute Autorité de Santé. Donc c'est une femme de moins de 60 ans qui n'a pas de plaque d'athérome, pas de plaque de cholestérol dangereuse, qui n'a pas fait d'accident cardiovasculaire, artériel ou veineux, qui est très symptomatique, donc qui a des bouffées de chaleur, qui ne dort pas bien, qui a de l'ostéoporose, voilà. Donc une femme qui a un climat de l'air.
Et là, il y a un bénéfice.
Il y a un bénéfice, et clairement, ce n'est pas dangereux sur le plan cardiovasculaire. Je suis très bavarde.
Merci, non, c'était très bien, merci beaucoup, mais on pourrait continuer comme ça longtemps. Merci d'être venue. Merci beaucoup Anne Carbazin pour la préparation de cette émission, et à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.
Vous êtes bien sur France Culture.
Sans préjugés, votre rendez-vous d'actualité, de réflexion, d'échange d'idées percutantes et nouvelles, mais surtout de questions.
Nathan Dever.
À quoi bon débattre si c'est pour savoir d'emblée ce qu'on va penser de tel ou tel sujet? À quoi bon dialoguer si c'est dans le seul but d'avoir raison contre son interlocuteur? Sans préjugés, nous essayerons de questionner notre époque passionnante, loin des certitudes.
Sans préjugés, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La maîtrise de Radio France fête les 80 ans d'une aventure musicale exceptionnelle. Pour cet anniversaire, Birds on a Wire, Rachidou Ramdan, les acrobates de Chaillot, Théâtre de la Danse et les maîtrisiens d'hier, tous réunis autour de 150 jeunes chanteurs et de Sophie Janin. 80 ans de rencontres, de spectacles, de créations musicales. Venez fêter l'anniversaire de la maîtrise de Radio France les 11 et 12 avril à la Maison de la Radio et de la Musique. À vivre aussi sur France Musique.
Il est tout pile 12h30, vous êtes toujours sur France Culture. Le journal de la rédaction, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Un pilote américain toujours recherché en Iran. Son avion de chasse a été abattu hier par l'armée iranienne. Téhéran promet une prime pour sa capture alors que les frappes israélo-américaines se poursuivent, touchant ce matin la centrale nucléaire de Bouchehr. Des frappes aussi sur la région de Tyr, au Liban, et ses très nombreux vestiges archéologiques. Les Libanais se mobilisent pour tenter de sauver le patrimoine de la cité antique. Entre 10 et 20 000 personnes à Saint-Denis cet après-midi, c'est ce qu'espère Bali Bagayoko, le nouveau maire LFI. Cible de multiples attaques racistes depuis son élection, appelle à un rassemblement citoyen contre le racisme et les discriminations. Un appel au sursaut que plusieurs partis politiques ne semblent pas vouloir entendre. À commencer par le parti présidentiel. Aucun membre du gouvernement ne sera d'ailleurs présent. On en parlera en longueur avec le sociologue Julien Talpin, invité de ce journal. C'est donc une course contre la montre qui s'est enclenchée. Les recherches se poursuivent en Iran pour retrouver un pilote américain dont l'avion s'est écrasé hier, une première depuis le début de la guerre, le 28 février dernier. L'un des deux occupants de l'appareil a pu être secouru et exfiltré au cours d'un raid hier des forces spéciales américaines dans le sud-ouest de l'Iran. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Envoyée spéciale en Israël, vous êtes à Jérusalem. Alors à cette heure, Virginie, toujours pas de nouvelles de ce second pilote américain?
Oui, son sort reste inconnu pour le moment, toujours recherché, semble-t-il, par les deux camps. Hier, le site américain d'information Axios indiquait qu'Israël avait annulé des frappes prévues en Iran afin de ne pas entraver les opérations de recherche et de sauvetage. Toujours selon la même source, Israël apporte son aide aux États-Unis en leur fournissant des renseignements pour localiser le pilote. Mais ce matin, selon des médias d'État iraniens, les frappes israélo-américaines ont repris. L'une d'entre elles a d'ailleurs touché le secteur de la centrale nucléaire de Bouchehr, le long